De minuit à 7 heures, troisième partie. Chapitre 1. Le boudoir de Nelly Rose. Les yeux dilatés, les joues pâles, Nelly Rose, haletante, restait immobile. Son cœur battait si fort qu'elle s'imaginait follement que celui qui venait de sonner devait l'entendre. 1000 pensées confuses, rapides comme l'éclair, traversaient son esprit. Désemparée par ses récentes émotions, elle ne se défendait pas contre la peur nerveuse qui l'étreignait maintenant qu'elle était en face de l'événement, maintenant qu'il lui fallait ouvrir à cet homme. Mais non, non, elle n'ouvrirait pas. Elle n'avait qu'à ne pas ouvrir. Il ne briserait tout de même pas sa porte pour entrer. Oui, mais elle avait promis. Mais pour tenir sa promesse, elle s'était enfuie d'Enghien où elle était en sûreté, et en somme, sans reproche vis-à-vis de sa conscience, puisqu'on l'avait emmenée de force et enfermée. Et un espoir soudain traversa l'esprit de Nelly Rose. Sans doute s'était-on rapidement aperçu de sa fuite. Sans doute sa mère, ses amis allaient-ils survenir. Mon Dieu, si maman pouvait arriver! Se disait-elle avec une avide anxiété d'enfant qui a besoin de protection. Et Valnet lui-même, qu'elle prenait si peu au sérieux d'habitude, lui apparaissait à présent comme un sauveur. Que n'avait-elle accepté de l'épouser? Tout plutôt que cette angoisse, que ces heures à passer auprès de cet inconnu. Mais Nelly Rose, par un de ces revirements de pensée qui étaient la force de sa nature, se ressaisit soudain et répéta une fois de plus cette phrase qui la soutenait. Qu'avait-elle à craindre? Contre un homme âgé, un vieillard sans doute, ne saurait-elle se défendre? Et puis les domestiques veillaient dans l'appartement voisin, et avec un coup de sonnette, vraiment, elle était ridicule de s'affoler ainsi. Et comme le timbre, pour la seconde fois, résonnait, Nelly Rose alla vers la porte qui donnait sur l'antichambre, l'ouvrit, traversa cette antichambre et avec résolution, mais d'une main qui malgré tout tremblait, tira le verrou de la porte d'entrée, fit jouer le pin de la serrure et, sans ouvrir elle-même le battant, aussitôt revint à reculons vers son boudoir, crispé, regardant anxieusement qui allait paraître. La porte d'entrée fut poussée lentement. Et lentement aussi entra un homme de haute taille dont elle ne distingua pas les traits, car son chapeau était rabattu sur ses yeux, et le collet relevé du grand manteau qui l'enveloppait lui cachait le visage. Sans le quitter du regard, Nelly Rose s'était adossée au mur le plus éloigné du visiteur. Elle vit confusément, dans l'antichambre obscure, les gestes qu'il fit pour se dépouiller de son manteau et de son chapeau. Alors, il parut au seuil du boudoir et s'arrêta là, en pleine lumière. Nelly Rose eut une exclamation de stupeur. Ce n'était pas un vieillard, jamais vu encore, qui était devant elle. C'était lui. Lui, l'inconnu de la rue, l'inconnu de la branche de lilas. Jeune, plein de force, d'aisance et de grâce souriante. Et cette jeunesse, cette force, cette grâce même, épouvantèrent Nelly Rose plus que ne l'eût épouvanté le plus affreux aspect, plus que ne l'avait épouvanté la brute du chemin d'Enghien. Soudainement, elle se sentit en péril. Cet homme, l'après-midi, l'avait déjà troublée et inquiétée. À présent, surgissant là, ayant le droit d'y être, d'y rester, de par sa folle promesse, il la terrifiait. En lui se réunissaient les deux menaces suspendues sur elle depuis l'après-midi. La menace de l'homme au chèque, la menace de l'homme qui si audacieusement était venu chez elle. Elle éprouvait la détresse que doit éprouver l'oiseau fasciné. Brusquement, elle eut honte de ses bras, de ses épaules nues, prit sur un fauteuil une écharpe de soie et s'en enveloppa. « C'est vous ?» murmura Nelly Rose. C'est vous? Vous êtes donc Ivan Baratov? Gérard eut une hésitation, mais qu'elle ne perçut pas. En vérité, il n'avait pas prévu le mensonge auquel il s'exposait. Il répondit évasivement « Baratov est un nom russe que je porte quelquefois, là-bas, depuis la guerre. Je suis français. » Toujours adossée au mur, la jeune fille essayait, dans son désarroi, de réfléchir, de comprendre. Pas une seconde elle ne pressentit une supercherie que rien ne pouvait lui indiquer. Mais toutefois elle demanda « Mais vous n'êtes donc pas arrivé ce soir seulement ?»« Non, je ne suis venu au Nouveau Palace qu'à 7 heures, mais j'étais à Paris dès ce matin. »« C'est vous ? C'est vous ?» répéta Nelly Rose à voix basse. « Mais pourquoi m'avez-vous poursuivi ainsi tantôt? Que me voulez-vous ?»« Je voulais vous voir, être remarqué par vous. L'incident du chauffeur m'en a fourni l'occasion. Je voulais vous intriguer et n'être plus pour vous un inconnu. » Il parlait doucement, avec un sourire presque caressant. Mais cette douceur et ce sourire irritèrent Nelly Rose, qui dit d'une voix sourde « Vous êtes plus qu'un inconnu, un ennemi !» Sans répondre, toujours souriant, il fit un pas dans la direction de la jeune fille. Et tout à coup, elle fut éperdue. « N'avancez pas » cria-t-elle. « Je vous défends d'avancer !» Le sourire de Gérard s'accentua, devint ironique. « Cependant, mademoiselle, nous ne pouvons rester ainsi debout !» Vous contre le mur, moi contre la porte, à nous regarder en ennemis, comme vous dites. Voyons, nous avons dansé ensemble cet après-midi. Ce soir, vous m'attendiez, et il se trouve qu'Ivan Baratov, c'est moi. Vous m'avez ouvert de bon gré. Je vous ai ouvert parce que je m'y étais engagée. Oui, alors ne pensez-vous pas... Il avança encore. N'avancez pas ! Cria à nouveau Nelly Rose. Et bouleversée de terreur, perdant la tête, n'ayant qu'une idée, être protégée, elle étendit le bras et appuya le doigt sur la sonnette électrique qui était au mur près d'elle. Le visage de Gérard devint dur. Il eut un ricanement. « Ah ! Je vois que toutes les précautions étaient prises. Un coup de sonnette et on me met à la porte. Malgré l'engagement. » « Mais soyez tranquille, je m'en vais. » Victorine, à ce moment, entrait. Sa surprise avait été grande d'entendre la sonnette qu'il appelait chez Nelly Rose, qu'elle croyait absente. Cette surprise devint de la stupéfaction quand elle vit la jeune fille en compagnie, à cette heure indue, d'un jeune homme qu'elle reconnut pour être un des visiteurs de l'après-midi. Mais... en femme de chambre bien stylée, elle réprima son étonnement. « Mademoiselle a sonné ?» dit-elle. Il y eut un petit silence. Dans un effort d'orgueil et de volonté, Nelly Rose reprit son sang-froid et se rapprocha du milieu de la pièce. « Une erreur, Victorine. Laissez-nous. » Et, comme la femme de chambre hésitait, « Laissez-nous, je vous dis. Et vous et Dominique pouvez monter dans vos chambres. » « Je n'ai pas besoin de vous. »« Bien, mademoiselle. » Victorine obéit à regret, mais en se disant à elle-même, tout en suivant le couloir, « Bien sûr que non, je ne monterai pas. Ce type-là a tout d'un bandit en habit noir. »« Veuillez rester, monsieur, » dit Nelly Rose à Gérard quand ils furent seuls. « J'ai eu tort, je n'appellerai plus. Et du reste, vous avez entendu, on ne sera plus là pour me répondre. » Elle s'efforçait au calme. Il admira sa grâce et son courage. Sa conquête lui apparut plus encore désirable. Cependant, une autre pensée, sans doute, lui traversa l'esprit. Une minute, il resta silencieux et comme préoccupé. La jeune fille inquiète l'observait. « À quoi songeait-il ? » Il parut se ressaisir. Son visage, un moment contracté, se détendit. « Écoutez, mademoiselle, dit-il avec une aisance un peu railleuse. « Ne croyez-vous pas qu'il serait nécessaire de savoir exactement à quoi nous en tenir l'un à l'égard de l'autre, et de nous expliquer franchement, sans avoir peur des mots ?»« Eh bien, parlez !» dit Nelly Rose sur la défensive. « Voici, en acceptant ma présence ici, premier point, vous avez bien envisagé toutes les conséquences de votre acte. » « Oui, » dit Nelly Rose avec netteté. « Donc, vous avez compris le sens de cette entrevue, la nuit, chez vous. »« Oui, j'ai compris que je recevais un homme chez moi, la nuit, que cet homme essaierait peut-être de profiter de ma confiance, mais que je saurais me défendre. »« Cependant, vous vous êtes engagé. » »« À quoi ?»« À quoi, en effet ?» se demanda Gérard, s'était-elle engagée ? Il ne le savait pas, ignorant les clauses de la convention proposée par Baratov à la jeune fille, sachant seulement que Baratov avait donné 5 millions et était attendu à minuit par la jeune fille. Elle reprit. « Je me suis engagée à vous recevoir, » dit Nelly Rose. « Voilà tout. »« À rien d'autre ?» « À rien d'autre qu'à vous recevoir, seul, de minuit à 7 heures. J'ai pris cet engagement par surprise, mais je l'ai pris, je suis donc seul. » Il n'écouta pas les derniers mots. Le premier renseignement lui suffisait. « De minuit à 7 heures ? Ah, cette jolie fille n'allait pas le croire naïf au point d'admettre qu'elle ignora ce que cela voulait dire. » Et il avait failli se laisser prendre à sa comédie d'ingénuité. « Mademoiselle, voyons, » dit-il, souriant de son sourire aigu, « est-ce que vous ne pensez pas que pendant ce laps de temps, ma générosité pour les laboratoires me donne quelques droits, notamment celui, bien innocent, de pouvoir m'approcher de vous sans que vous reculiez ?» Il s'approcha lentement. Elle resta sur place, crispée. Il était presque contre elle, et brusquement, il lui saisit les mains. Dans une révolte de tout son être, elle les lui arracha et bondit en arrière. Un moment, ils demeurèrent immobiles. « Allons, sonnez encore votre femme de chambre !» persifla Gérard. « Je suis sûr qu'elle n'est pas montée. » Nelly Rose ne répondit pas tout de suite. Elle essayait de se reprendre. Il entendait battre son cœur. « Vous êtes un lâche !» lui dit-elle enfin d'une voix dure. « Oui, un lâche, d'avoir osé abuser de votre fortune en proposant à une jeune fille, qui ne pouvait la refuser sans être coupable envers une œuvre admirable, une somme énorme. Un lâche, parce que pour le monde, vous jouez au philanthrope, alors qu'en réalité... Un lâche, parce que après m'avoir prise au piège, vous voulez maintenant abuser de mon désarroi. » Dans son émoi, elle était plus belle que jamais. Il la regardait, émerveillé. De nouveau, un revirement s'opérait en lui. Non, cet enfant ne jouait pas la comédie. Elle était sincère, vraiment ignorante de ce à quoi elle s'était exposée. Elle n'en était que plus précieuse et plus séduisante. Il eut honte de sa brutalité et d'avoir mérité d'être appelé lâche. Il voulait la conquérir, il le voulait plus que jamais. Et, avec son habituelle adresse, il changea d'attitude. « Je m'excuse, mademoiselle, je suis convaincue que vous êtes sincère. » Elle fut étonnée. « En aviez-vous donc douté ? » ?»« Oui, et avouez... » Elle réfléchit. « Vous avez raison. J'ai acquiescé sans le vouloir, je vous le répète, à un engagement équivoque, ou trop clair, sauf pour moi. Voyez-vous, je ne me doutais pas de ce que cela signifiait, de ce que c'était que de recevoir un homme, ainsi, la nuit, et d'être enfermé avec lui, entre 4 murs, tous 2 seuls. J'avais décidé d'être calme. J'avais préparé mon programme, des explications, des phrases. Et puis, quand vous êtes entré, et que, en plus, j'ai vu que c'était vous, Ivan Baratov, Alors j'ai perdu la tête. Je n'ai plus su. » Elle s'interrompit. Une fois encore, il ne l'écoutait plus, distrait, dans un de ces silences qui, plus que tout, déconcertaient la jeune fille. Encore une fois, à quoi pensait-il? Il ramena les yeux sur elle. « Vous me détestez ? » demanda-t-il doucement. « Non, je ne vous déteste pas. Vous ne pouviez pas savoir. J'ai commis une imprudence. »«
Que vous regrettez ? » ?»«
Oui. » »« Alors, si c'était à refaire, vous n'auriez pas tenu votre engagement. » Elle réfléchit et, fermement, « Si, je le devais, puisque le chèque a été touché. Et je savais si bien que je le devais, que ce soir, il y a une heure, comme on m'avait emmené et enfermé aux environs de Paris, pour éviter ce qui se produit, je me suis sauvée en passant par une fenêtre. C'était à Enghien. J'ai traversé le lac en barque. J'ai été suivie sur l'eau par deux hommes, puis dans le chemin par un ivrogne. Je suis venue tout de même ici. »
On vous a emmené ?
On savait donc, dans votre entourage, que je devais venir ce soir chez vous ?
Oui, ma mère a lu la lettre que vous m'avez fait apporter du nouveau palace. Elle a exigé que je parte avec elle, mais je me suis enfuie. Je voulais tenir ma parole.
« Je vous demande encore pardon, mademoiselle, » dit Gérard, étonné de ce courage et de cette bonne foi. « Je me suis mal conduit. » Cependant, il réfléchissait. Nelly Rose s'était enfuie, mais ceux qui la surveillaient, sa mère, par exemple, qui l'avait emmenée pour la soustraire à l'entrevue insolite de cette nuit, ne s'apercevrait-il pas de la fuite de la jeune fille ? N'allait-il pas survenir et défendre Nelly Rose contre lui ? Nelly Rose, qui de plus en plus suscitait son intérêt, sa curiosité, son désir. Nelly Rose, qui pour le moment était en son pouvoir, et qui cette nuit, si l'occasion se présentait... Et n'avait-il pas tout préparé pour que cette occasion se présentât ? Il fixait les yeux sur Nelly Rose, silencieuse maintenant, et ce regard dont elle avait déjà subi le pouvoir gênait la jeune fille. « Voyons, mademoiselle, causons un peu, voulez-vous ? Nous ne savons rien l'un de l'autre, ou plutôt, vous ne savez rien de moi. Je dois vous apparaître comme quelque barbare qui vient de l'Asie, cynique, brutal, et qui veut se servir de son or pour acheter ce qu'il y a de plus beau, de plus rare et de plus précieux au monde. Oui, vous devez croire cela. Et pourtant, je ne suis pas cela. Pas plus que vous n'êtes ce que j'ai cru un moment. Que voulez-vous ? Vous êtes déconcertante. Vos actes sont insolites. Ils semblent ceux d'une femme avertie, affranchie, prête à tout. Mais j'ai compris mon erreur. « Encore une fois, excusez-moi, et ne craignez rien. Dites-moi que vous ne craignez plus rien. »
Elle eut un geste vague. Il la sentit encore sur la défensive, inquiète, en méfiance, et il joua le jeu préparé.
« Ah, toujours cet air craintif !» dit-il d'un ton de reproche cordial. « Ce n'est pas bien !» Je serais si heureux de vous voir calme et confiante. Que puis-je faire pour cela ? Et du ton d'un homme qui se résout à un sacrifice. Tenez, mademoiselle, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est d'être ainsi, tous deux, seuls, entre quatre murs, qui vous choque et vous fait peur. Eh bien, voulez-vous que nous partions d'ici ?
Elle le regarda, surprise.
Que nous partions ?
Oui.
« Vous ne m'en voudrez pas de souhaiter goûter quelques moments encore le charme d'être avec vous que je ne reverrai peut-être plus par la suite. Mais il n'est pas besoin que ce soit ici et que nous soyons seuls. Sortons, allons nous promener tous les deux, comme deux camarades, ou, si vous préférez, comme deux étrangers que le hasard rapproche, pendant un peu de temps, et qui profitent de ce hasard sans lendemain. »
Il avait parlé avec toutes les apparences d'une franchise amicale et un peu mélancolique. Et le jeu réussit, car Nelly Rose, détendue, cordiale elle aussi, répondit presque joyeusement « Oh, vous voulez bien ?»«
Certes, je le veux. »«
Mais où irons-nous » interrogea-t-elle avec une curiosité d'enfant. Il eut l'air d'hésiter.
« N'importe où, j'ai une voiture en bas. Tenez, voulez-vous que je vous emmène danser ? Vous deviez ce soir aller à un bal. »«
Comment savez-vous cela ?»«
Oh mon Dieu, c'est bien simple. À votre réception tantôt, je vous ai entendu le dire à un grand jeune homme maigre qui ressemble à Don Quichotte. À part qu'il est sans armure et salade, mais avec un col cassé et un monocle. »
À cette description de Valnet, Nelly Rose sourit.
« Alors, voyons, continua-t-il, voulez-vous que je vous emmène à un dancing, à Montmartre, à Montparnasse ? Ou plutôt non, j'ai une idée. Ce sera mieux, et vous ne risquerez pas d'être rencontrés. Ce soir, dans un coin d'Auteuil que je connais, il y a une réunion de Russes qui célèbre je ne sais plus quelle fête. De vrais Russes, vous savez, qui ne seront pas là en représentation et qui chanteront et danseront. Ce sera pittoresque. Allons-y passer une heure, voulez-vous ?
Et ensuite ?
Ensuite ? Eh bien, je vous reconduirai ici et vous dirai adieu. Votre engagement sera rempli. Je ne vous importunerai plus. »
Elle le regarda en face avec émotion et gratitude.
« J'accepte, lui dit-elle. Je vous remercie. « Oh, c'est bien de me proposer cela. Ici, j'avais tellement peur. J'ai confiance maintenant, pleine confiance. Partons. »
Chapitre 2. Un crime est découvert. Un peu après minuit, Madame d'Estol, qui sommeillait dans le couloir de la villa d'Enghien, devant la porte de la chambre où elle avait enfermé sa fille, remua et prononça quelques vagues paroles. Les quatre Bridgers, qui, résignés, gelés et fatigués, jouaient toujours automatiquement, annonçant leur demande à voix basse, levèrent les yeux. Madame d'Estol s'éveilla tout à fait, fixa sur eux un œil ahuri d'abord.
« Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? »
balbutia-t-elle, ne se souvenant plus de rien, et confondue de se trouver là, et de l'aspect insolite que les quatre hommes présentaient avec leur col relevé, leur chapeau sur la tête, et mal éclairé par la débile lueur de la lampe à pétrole. Puis elle se souvint, rit et dit « Vous en avez des têtes ! Je n'ai pas dormi une seconde » ajouta-t-elle, « mais ce fauteuil m'a courbaturée. » Elle se mit debout et fit quelques pas pour se dégourdir les jambes.
« Je vais voir si Nelly Rose dort bien. »
Avec précaution, elle ouvrit la porte où elle avait enfermé sa fille et entra. Une bougie brûlait encore sur la cheminée et Madame d'Estol poussa un grand cri.
« Partie ! Elle est partie ! Elle s'est enfuie par la fenêtre !»
Les quatre hommes accoururent. La fenêtre ouverte, les couvertures nouées au balcon indiquait clairement le moyen de fuite employé par la jeune fille. Des exclamations s'entrecroisèrent. Valnet se précipita dans le couloir, puis dans l'escalier. Il revint au bout de quelques minutes, affolé, haletant.
« Elle a pris la barque » proférait-il. « Elle a pris la barque qui était attachée en bas. Elle a voulu retourner à Paris pour recevoir cet individu !» cria Madame d'Estol. Elle a voulu tenir sa parole. C'est notre faute. Nous n'aurions pas dû la quitter des yeux. Mais est-ce que je pouvais supposer que ce soit aussi facile de se sauver d'ici ? Ah, je la retiens à votre villa, Valnet. Mais vite, vite, rentrons à Paris. Nous arriverons peut-être à temps pour... »
Elle ne dit pas pourquoi, mais tous comprenaient et partageaient. Valnet surtout, son angoisse. Ne prenant pas le temps d'éteindre le poêle à pétrole, Valnet saisit la lampe et, suivi des autres, se précipita en bas. Son mouvement fut si rapide que la lampe s'éteignit. Il dut se fouiller pour trouver des allumettes et prendre son mouchoir pour enlever le verre brûlant et rallumer. Enfin, tous les cinq furent sur la route auprès des autos où dormaient les chauffeurs. On les secoua, ils remuèrent, grognèrent, se rendormirent. Au bout de 5 minutes seulement, ils reprirent conscience de la réalité.
« Vite, vite, à Paris, chez moi !» ordonna Madame d'Estol en s'installant dans sa voiture avec 2 des mousquetaires, tandis que le 3e prenait place auprès de Valnay. Les voitures démarrèrent et filèrent.
« Mon Dieu, 40:30 !» gémit Madame d'Estol en voyant l'heure à la pendulette de sa voiture.
« Et cet homme devait venir à 00:00 !»«
Vite, vite » cria-t-elle par la portière.
« Mais vous vous trompez de route !»
hurla tout à coup Valnay à son chauffeur qui marchait en tête.
« Monsieur Croix ?»
répondit avec placidité cet homme engourdi encore par le sommeil.
« Si je le crois, mais c'était à droite qu'il fallait tourner !»
On tourna à droite, mais après 10 minutes, on dut reconnaître qu'on était complètement égaré. Madame d'Estol trépignait. Ils retrouvèrent enfin la ligne du chemin de fer qui leur donnait un sûr point de direction. Mais, pour comble d'infortune, au moment où l'auto de Madame d'Estol s'engageait dans la bonne route, un de ses pneus d'arrière éclata.
« C'est à pleurer !» gémit Madame d'Estol.
Mais elle ne voulait pas se laisser abattre. Elle descendit, suivie de ses 2 compagnons.
« Réparez, vous reviendrez quand vous pourrez »
ordonna-t-elle à son chauffeur. Elle se tourna vers les 4 hommes réunis autour d'elle, car au bruit, Valnay avait fait arrêter sa voiture et avait, ainsi que son compagnon, mis pied à terre.
« Valnay, » dit-elle, « je vais avec vous dans votre voiture.
Vous, » ordonna-t-elle aux 3 autres, « attendez ici. Mon auto, quand elle sera prête, vous ramènera. » Les mousquetaires ne protestèrent pas. Du reste, à tout prendre, harassés, ils aimaient autant attendre là que de continuer cette poursuite échevelée.
1:20, se lamentait Madame d'Estol. Cela fait donc 1:20 que cette brute est sans doute avec ma fille. C'est monstrueux. Jamais je n'aurais soupçonné cela de Nelly Rose. Quelle folie! Quelle imprudence! Quelle révolte! Ah, les jeunes filles d'aujourd'hui! De mon temps, les jeunes filles attendaient le mariage.
Elle s'arrêta sur la voie périlleuse des confidences, où, dans son émoi, elle allait s'engager. Et tout à coup,
« Mon bon Valnay, nous allons la sauver, et je vous la donne. C'est une enfant imprudente dans sa candeur, dans son ignorance du mal. Vous la protégerez, vous la guiderez. Elle vous aimera, elle vous écoutera mieux qu'elle ne m'écoute. Je vous la donne, Valnay. »
C'est mon plus cher désir, répondit Valnay avec feu.
Ah, enfin nous arrivons. Voici Paris.
Mon Dieu, je n'ai pas ma clé, dit Madame d'Estol.
Pourvu que Victorine soit encore là.
Ils traversèrent Paris en trombe. Toutefois, 2 heures du matin approchaient quand Madame d'Estol et Valnay escaladèrent les 2 étages.
Sonnez chez moi, dit Madame d'Estol.
1/2 minute après, Victorine ouvrit, effarée.
« Madame ! Madame ! » dit-elle en voyant Madame d'Estol.
« Eh bien, quoi ?
L'homme, madame, l'homme qui devait venir.
Eh bien, quoi ?
Madame, il est entré. Il est entré par chez mademoiselle.
« Seigneur ! » cria Madame d'Estol.
« Je l'ai vu. Mademoiselle avait sonné. » Et puis, quand j'ai été là, elle m'a renvoyée en me disant de monter me coucher.
Je ne suis pas montée, madame. J'étais trop tourmentée.
Mais cet homme !
Madame, il est venu déjà tantôt à la réception. Un grand brun, élégant.
Je l'ai vu ? Dit Madame d'Estol.
Je l'ai pris pour un camarade de Nelly Rose.
Mais où est-il à présent ?
Chez mademoiselle, madame. Madame d'Estol, suivie de Valnay et de Victorine, s'élança vers l'appartement de sa fille. Personne. La porte de l'antichambre n'était pas refermée à clé, le verrou était ouvert.
« Ils sont partis ensemble !» gémit Madame d'Estol, atterrée. « Que faire ? Mon Dieu, que faire ? Il faut prévenir la police !»«
Non, non !» protesta Valnay. « Pas de scandale public, pour votre fille. »
Pour il songeait pour moi qui dois l'épouser.
Nous devons agir par nous-mêmes. Nelly Rose a suivi ce Baratov. Pourquoi? Où l'a-t-il emmené? Où habite-t-il?
Madame, sur la table, il y a une enveloppe avec une adresse, dit Victorine.
C'est l'enveloppe de la carte que ce misérable lui a envoyée pendant le dîner, s'écria Madame d'Estol.
Ah! « Voyez, Valnay, le nouveau palace, téléphonons !»
Après un quart d'heure d'effort de la part de Valnay, la communication fut enfin obtenue.
« On me dit qu'il est sorti, ou qu'il doit dormir, car personne ne répond chez lui, » annonça Valnay.
Et soudain, hors de lui, les poings brandis,
« Ah, la canaille, il est sorti !»
Madame d'Estol haussa les épaules.
Évidemment, puisqu'il est venu ici. Mais qui nous dit qu'il n'est pas rentré ensuite, qu'il n'a pas entraîné Nelly Rose, et qu'il ne répond pas justement parce qu'il est avec elle?
Il faut prévenir la police, cria Valnay.
Mais le scandale, vous disiez vous-même tout à l'heure.
Il n'y aura pas de scandale. J'ai un ami intime, haut fonctionnaire à la préfecture. Mais vous le connaissez, Thureau. C'est le bras droit du préfet. J'y vais.
J'y vais avec vous. Il n'y a pas une seconde à perdre, dit Madame d'Estol.
Trouver Thureau fut une tâche ardue. Thureau, célibataire, volontiers mondain en dehors de ses fonctions officielles et qui habitait un rez-de-chaussée rue de Lille, n'était pas chez lui. Son concierge, réveillé à grand-peine, indiqua qu'il devait sans doute être en soirée, puisque à 10 heures, il était sorti en habit. Où cette soirée? Le concierge n'en savait rien. Mais à la préfecture, on le savait peut-être, car Thureau avait coutume, si un cas urgent se présentait, de laisser des indications sur l'emploi de son temps. L'auto fila vers la préfecture. Là, Valnay, connu pour être ami de Thureau, fut renseigné. Thureau se trouvait à un bal, chez des personnes qui s'appelaient Boutillier.
« C'est vrai !» s'exclama Valnay en se frappant le front. « Que je suis bête, il m'avait dit qu'il y allait !»«
Mais nous avons perdu une demi-heure !» dit Madame d'Estol avec reproche quand elle fut au courant.
« Ah, Valnay, mon cher ami, quelle étourderie ! Et pendant ce temps !»
Valnay monta seul chez les Boutilliers. Et, sans entrer dans le salon, fit appeler Thureau par un domestique. Thureau parut. C'était un homme d'une quarantaine d'années, fort élégant, aux cheveux blonds plaqués, à la courte moustache, et qui, très pénétré de son importance, affectait en toutes circonstances une nonchalance que rien ne trouble, et un scepticisme qui ne s'étonne jamais.
Fugue de la jeune personne ? Demanda-t-il quand Valnay lui eut, en quelques mots, expliqué la situation.
Mais, dit Valnay indigné, elle en est incapable. Non, rapt, enlèvement, séquestration.
Fichtre, dit Thureau. Alors, allons au nouveau palace. Bien qu'à cette heure-ci, et sans mandat, bah, je prends sur moi.
Il descendit avec Valnay rejoindre dans l'auto Madame d'Estol. Quelques minutes après, tous trois entraient au nouveau palace.
« Police !» dit Thureau au portier. « Allez me chercher le directeur. »«
Mais il dort, monsieur !»«
Allez !»
Après une courte attente, le directeur parut, mécontent, mais n'osant trop le montrer. En quelques mots, Thureau lui expliqua les faits sans nommer Nelly Rose.
« Il faut monter chez ce Baratov,
termina-t-il. Mais s'il n'est pas là ou ne veut pas répondre ?
Le garçon d'étage doit avoir un passe-partout. Il ouvrira.
Dépêchons-nous, dit Madame d'Estol qui bouillait d'impatience.
Thureau, à la porte de Baratov, frappa à plusieurs reprises sans succès.
Ouvrez ! Ordonna-t-il au garçon d'étage qu'on avait réveillé sur la chaise où il somnolait dans un office voisin.
Le garçon ouvrit et, sans entrer, s'effaça.
Madame d'Estol se précipita la première, impétueusement, et eut un cri d'horreur.
« Oh, mon Dieu !»
Sous la lumière, qui dans la chambre obscure venait du couloir, sur le tapis, le corps d'un homme, étendu de tout son long, inanimé. On alluma l'électricité du petit salon. On s'empressa autour du corps.
« C'est M. Baratov, » dit le directeur.
« Il est mort, » dit Thureau, qui, à genoux, examinait Baratov. « Et depuis plusieurs heures, la rigidité commence. Et voyez ce sang sur le col, sur la chemise. Et là, au cou, cette plaie. Il a été assassiné. Directeur, téléphonez au commissariat du quartier, de ma part, de la part de M. Thureau. Que le commissaire vienne sans retard avec un médecin. »
Dans l'hôtel, dans cette partie de l'hôtel tout au moins, ce fut l'agitation, l'émotion, la curiosité que provoque toujours la découverte d'un crime. Attiré par les coups frappés, le va-et-vient, les exclamations, les appels du téléphone, des employés montèrent. Des voyageurs réveillés parurent, à demi vêtus, à la porte de leur chambre.
Madame d'Estol, au comble de l'émotion, était revenue dans le couloir pour ne plus voir le cadavre, et elle disait à Valnet, bouleversé lui aussi,
« C'est affreux ! C'est affreux ! Mais où est Nelly Rose ? Et ce n'est pas cet homme qui est venu chez elle, puisqu'il n'est pas sorti, qu'il était mort avant minuit. Et du reste, ce n'est pas lui que j'ai vu cet après-midi chez moi. L'autre était jeune. »
Quel abominable mystère, dit Valnet.
Mais Nelly Rose, où est-elle en effet? Avec qui est-elle?
Cependant, le commissaire de police et le médecin arrivèrent bientôt, accompagnés de trois agents. Et après les premières constatations, le corps fut transporté dans la seconde pièce de l'appartement, la chambre à coucher, est étendue sur le lit. Madame d'Estol et Valnet rentrèrent dans le salon, dont la porte fut mise sous la garde d'un agent pour évincer les curieux qui se pressaient dans le couloir. En présence de Thureau, du médecin et du directeur, le commissaire de police interrogea le garçon d'étage, un homme de petite taille, brun, à l'accent un peu zézéant, et qu'on nommait Manuel.
« Monsieur le commissaire, expliqua-t-il en faisant de visibles efforts de mémoire, je ne peux rien dire de précis. Comme tous les soirs où je suis de garde, vers minuit, je me suis un peu endormi dans l'office, sur ma chaise. Pourtant, de là, je voyais le couloir et la porte de l'appartement, et si on était sorti, ça m'aurait réveillé.
Alors, vous croyez que M. Baratov n'est pas sorti ?
« Non, monsieur.
Quelqu'un est venu le voir ?»«
Oui, un de ses amis qui a dîné avec lui, ici, dans le salon. Le maître d'hôtel Robert les a servis. L'ami de monsieur Baratov est parti vers 9 heures, et il est revenu vers 11 heures. Alors j'ai entendu des éclats de voix, comme une dispute. Louis, le valet de chambre, a entendu aussi. Même il m'a dit... « Ça chauffe chez le Russe. » Et vers 11h30, l'ami de M. Baratov est reparti.
« Et personne n'est venu depuis ?»«
Non, monsieur, j'en pourrais jurer. Comme j'ai dit, je somnolais, mais ça m'aurait réveillé. »
« Et comment était l'ami de M. Baratov ?»«
Un grand, jeune, brun, le teint basané, très élégant. »«
C'est lui !»
souffla à Valnet Madame d'Estol éperdue.
C'est lui qui est venu tantôt, qui est venu ce soir, qui a emmené Nelly Rose, sans doute en se faisant passer pour Baratov.
Il faut absolument retrouver cet inconnu, jeune et brun, dit le commissaire de police à Thureau. Tout porte à croire que c'est lui l'assassin.
Cela semble hors de doute, dit Thureau.
Mon Dieu, ma pauvre Nelly Rose,
gémit Madame d'Estol. Et elle s'affaissa, évanouie, dans les bras de Valnet.
Chapitre 3. Griserie. Le trajet est court du Trocadéro à Auteuil. Dans les rues, désertes à 7 heures de la nuit, le taxi, conduit par le chauffeur Ibratiev, roulait à grande allure. Gérard, pour ne pas laisser à Nelly Rose le loisir de se reprendre et de réfléchir à l'imprudence qu'elle commettait en se fiant à lui, parla sans cesse, donnant de nouveaux détails sur la pension russe où il l'emmenait. Peine peut-être superflue, car Nelly Rose ne songeait ni à se reprendre, ni à se défier. L'attitude de son compagnon était si cordiale et si respectueuse que la jeune fille ne doutait pas que tout péril fût écarté. C'est seulement quand la voiture s'arrêta près du viaduc d'Auteuil, non loin de la Seine, devant la pension russe, que Nelly Rose eut un moment d'inquiétude. « Et s'il m'avait amenée ailleurs ?» se dit-elle. « Et si ce n'était pas à une fête ?» Mais non, on entendait de la musique. Devant la maison, plusieurs autos élégantes attendaient. Il n'avait pas menti. La confiance de Nelly Rose s'en accrut. Quand Gérard et Nelly Rose franchirent le seuil du hall, la fête battait son plein. Dans une décoration hâtivement établie, guirlandes de fleurs en papier, guirlandes d'ampoules de couleur, donnant une lumière à la fois vive et atténuée, chatoyante, une foule se pressait, une foule presque exclusivement slave, où Gérard et Nelly Rose étaient peut-être les seuls Français. Foule mêlée, dont la majorité se composait d'émigrés, appartenant soit de naissance, soit depuis leur exil, et par le malheur des temps, à une classe sociale peu élevée, dont la minorité était composée par des gens riches, hommes en smoking, femmes en grande toilette, russes ou étrangers, venus là en curieux, pour voir, foule bruyante, montrant dans le plaisir un laisser-aller un peu brutal, un peu vulgaire, où il y avait comme la revanche des épreuves quotidiennes d'une déchéance qu'on veut oublier et d'une mélancolie désespérée. Tout autour de l'espace vide réservé aux danseurs se trouvaient des tables presque toutes occupées et où étaient servies des bouteilles de champagne dans leurs seaux à glace ou bien la blanche vodka en des verres irisés. Des boules de couleur s'échangeaient de table en table. Des serpentins accrochaient partout leurs rubans multicolores. Au bout du hall, à l'écart, dans un renfoncement entre deux piliers, il y avait une table libre. Gérard y conduisit Nelly Rose et commanda du champagne. Nelly Rose regardait curieusement autour d'elle. Elle avait l'esprit parfaitement libre. Rien à redouter dans cette foule. Son compagnon était loyal, aucun doute à ce sujet. Et, détendue, elle se laissait aller à l'attrait, nouveau pour elle, un peu étrange, de cette fête où elle ne discernait pas que l'exubérance peu à peu remplaçait la gaieté, que l'ivresse, pour certains, remplaçait l'animation. « Comme je suis heureux de vous voir plus gai !» lui dit Gérard, dont la voix était douce, mais dont l'œil attentif l'observait, notant les impressions qui se succédaient en elle. « Je retrouve, enfin, votre expression habituelle, votre sourire d'enfant. » Elle le regarda, étonnée. « Mais, vous parlez comme si vous me connaissiez déjà. Mon sourire d'enfant, dites-vous ? » Il plaisanta. « Mais oui, je vous ai connu tout enfant. »« Moi ? »
ou tout au moins votre photographie. Vous aviez 10 ans.
Mais c'est impossible. Racontez-moi cela.
Plus tard, dit-il, plus tard. Pour le moment, ne voulez-vous pas danser avec moi ? Elle se défendit, effarouchée.
« Oh non, non, je ne veux pas danser ici, dans cette foule, et ne me versez pas de champagne. »«
Je sais, cela vous tourne la tête. »«
Comment, vous savez ? Et où m'avez-vous vu avant cet après-midi ?»
Il se pencha vers elle, satisfait de l'intriguer de nouveau, fixant ses yeux sur les siens.
« Rappelez-vous, mademoiselle, l'autre hiver, vous êtes venue à une fête de bienfaisance au cercle interallié. Vous avez parlé un moment avec un monsieur assez âgé, grand, à favori. Il a insisté pour vous conduire au buffet et vous offrir du champagne. Vous avez refusé, comme vous venez de me refuser, en lui disant que le champagne vous montait à la tête.
Oui, je me souviens très bien. Et ce monsieur, dont je n'ai jamais su le nom, m'a demandé de lui signer son programme.
Vous avez bonne mémoire.
Mais ce monsieur, ce n'était pas vous.
Ce n'était pas moi.
Mais il m'a parlé de votre rencontre et de votre charme, et sur le programme, j'ai lu votre nom, Nelly Rose. C'est un nom que je me répétais souvent là-bas, en Russie, au cours d'une mission dangereuse que j'accomplissais. Nelly Rose, il me semblait que votre nom et que votre photographie me portaient bonheur. Il me semblait, c'était fou et chimérique, mais je suis parfois chimérique, que je surmontais, grâce à vous, toutes les difficultés et toutes les fatigues.
Ainsi, Gérard mêlait-il à la réalité des éléments propres à l'appareil d'une couleur plus vive. Sous le clair regard de Nelly Rose, il était gêné de mentir, mais il biaisait avec la vérité et l'interprétait à sa façon. Pour rien au monde, il n'eût voulu révéler à la jeune fille la découverte des titres et de la fortune paternelle. Cela lui eût paru un moyen d'action sur elle dont il refusait de se servir. Mais il laissait deviner qu'il y avait quelque chose entre eux dans le passé, un mystère qui les rapprochait à leur insu. Et il jouait son rôle en acteur consommé, qui veut séduire et profiter d'une de ces heures uniques que le destin ne vous accorde pas 2 fois. Demain, il serait trop tard. Nelly Rose l'écoutait, sans oser lever les yeux sur lui. Les inflexions tendres de cette voix, la ferveur persuasive et respectueuse de l'attitude, le romanesque de l'aventure, si dangereux pour une âme féminine, où la chimère et l'impossible s'unissaient aux qualités les plus grandes, tendaient à la déséquilibrer. Elle était si troublée qu'elle prit machinalement la coupe de champagne qu'il lui tendait, y trempa ses lèvres, puis la but en partie. Et Gérard poursuivit. C'est alors, après avoir réussi une mission en Russie, et quand je me suis retrouvé hors de l'enfer, qu'il m'est tombé sous les yeux cette revue France-Pologne, qui reproduisait vos 3 portraits. Enfin, je connaissais Nelly Rose, et toute ma vie prenait son sens véritable. Elle murmura. « Et vous m'avez écrit ?» Gérard hésita. Bien que sa conduite avec Nelly Rose ne fût qu'un mensonge dont il avait conscience, mais que lui masquait ses habitudes de séducteur, il répugnait au mensonge formel des mots et des affirmations. « Et je suis venu, dit-il. Votre proposition était étrange, mais que m'importait? Je voulais vous voir, entrer en relation d'une manière ou d'une autre avec vous. Je sentais qu'il y avait autre chose que l'explication ambiguë qu'une telle proposition pouvait suggérer. Oui, même tout à l'heure, dans votre boudoir, quand je vous ai paru brutale, au fond de moi, cependant, je ne doutais pas de votre pureté. Et votre révolte, que j'attendais presque, m'a ravie.
Mais « Cet après-midi, » fit-elle, « quand vous êtes venu près du laboratoire. »«
Je vous l'ai dit, je voulais vous voir. » »«
Et chez ma mère, comment avez-vous su que nous recevions ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté ? » ?»«
Je voulais seulement encore vous revoir. Je vous avais vu entrer chez vous. » J'ai appris par votre concierge qu'il y avait une fête et je n'ai pu m'empêcher de monter, et je vous ai revu. Je vous ai plus encore admirée. Vous étiez si belle. Chacun de vos gestes incarnait pour moi toute la grâce féminine. Je n'ai pu résister au désir de danser avec vous. Je n'ai pu résister à cette joie inattendue, si délicieuse et si enivrante, de vous tenir quelques moments dans mes bras. J'étais pour vous alors entièrement un inconnu, mais vous ne m'avez pas repoussé, et j'ai senti que vous ne m'étiez pas hostile. L'union s'établissait entre nous, l'union douce, particulière, profonde, quoique superficielle, qui s'établit entre un homme et la femme qui danse avec lui sans déplaisir. Est-ce vrai ?
Nelly Rose ne répondit pas, et après un moment,
« Vous n'auriez pas dû entrer dans mon boudoir. »«
Non, je n'aurais pas dû. Mais là non plus, je n'ai pu résister au bonheur de connaître tout de suite l'endroit où vous viviez, où le soir je vous verrais. »«
Mais vous n'étiez pas sûre de me voir ce soir. Je pouvais me dérober. » »«
Une femme comme vous ne manque jamais à un engagement pris. »
Elle rêva un moment, les yeux perdus. L'orchestre avait interrompu les danses, le chant nostalgique des bateliers de la Volga s'élevait. Nelly, instinctivement, prit devant elle la coupe de champagne que Gérard venait de remplir. Elle but. Elle écoutait le chant qui se prolongeait dans le silence, soudain établi autour d'eux dans le hall. Elle acheva la coupe. Gérard l'observait. Sans qu'elle le vît, il remplit la coupe. Il appela le maître d'hôtel qui les servait et lui donna de rapides instructions que le maître d'hôtel alla répéter au chef des musiciens de l'orchestre. Le chant venait de finir. Dans la vaste salle, l'animation reprenait, plus trépidante, plus désordonnée d'avoir un moment été contenue.
« Vous ne buvez pas ?» dit négligemment Gérard.
« Mais si, je bois, voyez !»
Nelly vida la moitié de sa coupe. Son attitude avait changé presque subitement. Toujours aussi lucide, sans aucune ivresse, elle était différente. Une autre Nelly Rose apparaissait, une Nelly Rose gaie, d'une gaieté un peu nerveuse, une Nelly Rose plus expansive, plus extérieure. Elle eut un beau rire un peu éperdu. Elle se dressa sur ses pieds pour mieux voir l'ensemble de la salle. Les couples commençaient à danser. Et c'était la valse que l'après-midi chez Madame d'Estol, Gérard avait dansé avec Nelly Rose.
« Nelly Rose, » dit Gérard. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi, mais elle ne parut pas y prendre garde. « Nelly Rose, vous ne voulez pas danser ?»
Mais oui, dansons, accepta-t-elle sans hésiter. Et elle ajouta, c'est notre valse de tantôt.
Il l'enlaça. Il sentit qu'elle était un peu abandonnée dans ses bras.